Oui, je suis Frédéric en Charente-Maritime, Vernier. Et j'appelle parce que je suis sur mon tracteur, j'écoute la radio. Quand je suis sur mon tracteur, je suis agriculteur. J'écoute l'émission là, ce soir avec les ouvriers de Nestlé qui se défendent. Eh ben, t'en feras ce que tu voudras, mais le sentiment que j'ai, moi, si j'étais eux, qu'est-ce que je serais content de foutre le camp de cette putain d'usine. Et toutes ces putains d'usines qui exploitent tout le monde, et puis... Et les gens sont malheureux, là-dedans. Ils gagnent quoi? De quoi s'acheter? Des choses inutiles. Voilà. Alors, j'achèterai plus jamais de chocolat Nestlé, j'en ai jamais acheté beaucoup. Et je mets jamais les pieds dans une grande surface qui font crever tous les agriculteurs. Et c'est ce que je voulais dire. Je te remercie. Au revoir.
Salut, c'est Muriel à l'appareil. Voilà, je t'appelle suite à ton émission d'hier sur l'usine Nestlé à Saint-Menay. Et je voulais pas polémiquer sur l'économie et tout ça. Je voulais juste te faire part de mon expérience en tant que Marseillaise depuis 30 ans et te dire que l'usine Nestlé, c'était aussi un patrimoine. Quel est le Marseillais qui n'a pas visité avec son école quand il était petit l'usine Nestlé, qui n'a pas senti à chaque fois que le vent poussait les odeurs vers le centre-ville, du chocolat, du café, ou sur l'autoroute en allant vers Aubagne. Et voilà. Et donc, je suis très contente que l'usine soit réouverte et j'espère que ça va se poursuivre. Et vive Nestlé, enfin vive surtout tous ceux qui se battent pour que l'usine Nestlé continue à vivre, à faire vivre Marseille et les Marseillais. Salut.
Nestlé est un bulldozer qui n'a pas de frein à main. Servi par des hommes, Nestlé n'est pas humain. La preuve est que si les 100 principaux cadres de Nestlé disparaissaient dans un accident d'avion, ils seraient remplacés dans les 10 minutes par 100 autres Dark Vador d'opérette, m'a dit le PDG de l'usine de Vittel. Le bulldozer ne ralentirait même pas un instant. À Vittel, Nestlé, qui est obligé, selon son PDG, à licencier pour résister à la concurrence, a décidé, en plus, de débaptiser des usines centenaires qui sont la fierté des habitants. Ces deux usines, avec trois fois plus d'employés en 1970, produisaient de 5 à 10 fois moins de bouteilles qu'aujourd'hui et apportaient la prospérité à toute la région. Cherchez l'erreur. Donc, Nestlé a décidé, en plus, de débaptiser des usines centenaires et maintenant, vous ne voulez plus du Vittel ou du Contrex, mais du Nestlé Vosges, usine sud et nord. Vive la poésie des multinationales. Quand on nous vole notre nom, on nous vole notre âme. Disons-le clairement, les multinationales sont l'ennemi de l'homme. Consommateurs ou citoyens de préférence, réveillons-nous, résistons, car ils sont en train de nous dévorer dans notre âme et dans notre manière de vivre. Nous ne sommes plus dans une logique de savoir si nous allons avoir des conditions de vie, mais des conditions de survie.
Ouais, ce qui m'a plu dans l'émission d'aujourd'hui, là, sur Nestlé, c'est que c'était très clair, en fait. C'était, voilà, le capitalisme expliqué aux enfants. C'est aussi simple que ça, mais c'est ça. Mais je veux dire, il faut avoir compris ça, quoi. Ce qu'a dit l'employé à un moment donné, voilà, pour sauver l'entreprise, on sacrifie les gens, quoi. Et c'est aberrant. Et puis ça marche comme ça. Alors on comprendrait si c'était des machines, par exemple. Si une usine disait, ben, ce qu'on faisait avec 10 machines, on ne peut le faire qu'avec 2, donc on a un meilleur profit, les 2 sont plus performantes, ça on pourrait comprendre, quoi. Mais pour sauver les résultats, traiter des humains comme des machines, c'est-à-dire, oh ben, on n'a plus besoin, on s'en débarrasse, c'est une aberration.
Bonjour, je viens vous soumettre un petit café qui pourrait tout à fait figurer sur la liste des amis de là-bas si j'y suis. C'est pour les gens qui habitent la région de Nantes. Ça se passe au Pèlerin, à 15 km à l'ouest de Nantes. Et le Café des Halles conviendrait tout à fait à cette idée de réunir des gens qui ont envie de se connaître et de discuter de tout ce qui nous tient à cœur, pour ne pas dire de lutter ensemble. Voilà, bon courage à tous. Ciao, ciao.
Ah bah oui, mais j'ai pas compris. C'est le Pèlerin. Le Pèlerin, c'est quoi? C'est le village. les halles, c'est le bistrot. Enfin, j'ai pas très bien compris. Donc, soyez précis, amis de là-bas, si j'y suis. Vous savez que c'est notre grande idée de la rentrée. C'est pas la seule, mais enfin, c'en est une. C'est de créer un peu partout des repères des amis de là-bas, si j'y suis. Les repères des amis de là-bas, si j'y suis. C'est une idée très, très simple. Vous écoutez là-bas, si j'y suis. Et puis d'autres aussi, à côté de chez vous, dans votre quartier, dans votre village. Alors, pourquoi pas se rencontrer, discuter, échanger. Et, comme le dit cet auditeur, évidemment, refaire le monde. Mais où ça? Eh ben, très simple, au bistrot. Alors, à vous de trouver dans votre coin un bistrot sympa, assez grand, qui vous plaît, qui est bien, avec un patron, une patronne sympa. Et puis, eh ben là, vous vous retrouverez chaque semaine, vous décidez, voilà, ce sera dans tel bistrot, à Grenoble, le Balto, je ne sais pas quoi, le café des sports, le café du commerce, eh ben ce sera le mercredi à 18h, ou bien comme vous voulez. Et vous vous retrouvez chaque semaine, petit à petit, puis on verra bien ce que ça fait, si ça crée des liens, des conflits, des amitiés, des, voilà, c'est tout, c'est des rencontres comme ça qu'on vous suggère. Alors, on verra bien ce que cette idée donne. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que ça suscite, on s'amuse avec le répondeur de la basse JV, ça suscite des propositions d'auditeurs. Ah oui, il faudrait qu'il y ait des autocollants qu'on collerait sur la voiture. Il faudrait qu'il y ait des épinglettes. Il y a un auditeur qui propose qu'on ait des épinglettes au revers du veston, comme ça. Enfin, bon, il y a tout un tas de propositions. Mais en tout cas, pas de site. Pas de site, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont dit, ah ben d'accord, on a compris, on va faire un site et on va faire un forum. Il y a déjà plusieurs auditeurs qui ont déjà créé et qui sont en train de créer des sites. Alors surtout pas de site, on veut surtout pas de site. Ce réflexe de foncer et de se cacher derrière un écran, de se mettre derrière un écran, c'est sympa, c'est intéressant évidemment, mais des forums sur le web, il y en a partout, il y en a des quantités. Notre idée, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, c'est d'aller physiquement au bistrot du coin et puis de faire connaissance avec, avec effectivement, oui, les timidités, les rigolades, les hésitations, les bavardages, les grands discours, voilà quoi, une vie simplement comme ça dans un bistrot où on se retrouve chaque semaine quand on le veut. Donc on indiquera les repères de là-bas sur le site franceinter.com à la rubrique là-bas si j'y suis, et c'est tout, pas d'autres forums que ceux qu'on tiendra dans ces bistrots. Donc on attend vos précisions. On est en train de préparer tout ça avec l'ami Christophe Humbert. Alors, beaucoup de réactions sur Nestlé, vous avez entendu. Et aujourd'hui, on va retrouver les Yes Men. Les Yes Men, c'est pas, ça pourrait se traduire comment, parler les bénis oui-oui, ou bien les lèche-cul carrément en anglais. Alors, bien sûr, faut pas que les ceux qui ont voté pour le oui prennent ça mal, hein. C'est un peu un hasard. Mais pas tout à fait un hasard non plus. Vous avez entendu cette nouvelle amarante, comme tout, d'un imitateur qui a imité Chirac, et qui a fait en sorte que l'équipe de France hier soir a chanté la Marseillaise, la main sur le cœur. Il a imité Chirac demandant en salle. Donc on voit bien quand même qu'il y a une fragilité, on voit bien que si on est malin, si on est rusé, on peut obtenir certains résultats là. C'est un truc charmant, mais ça peut aller beaucoup plus loin et avoir une signification, une portée, on peut dire carrément politique, extrêmement forte. Et c'est ce qu'ont fait ces deux Américains, les Yes Men, qui ont publié un bouquin pour raconter leur aventure aux éditions de La Découverte. The Yes Men, comment démasquer en s'amusant un peu l'imposture néolibérale. Ils ont sorti également un film, The Yes Men, de Chris Smith, Don Allman et Sarah Price, qui est sorti au cinéma en avril dernier, et il y aura un DVD en octobre prochain. Donc voilà, on va passer cette heure avec ces deux zouaves, ces deux Américains, pour nous changer un petit peu de l'image que nous sommes en train de nous faire, un peu plus encore une fois de l'Amérique. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis au 0156 40 37 37.
Bonjour, c'est le collectif de soutien aux enfants de sans-papiers. Bonsoir la France. Depuis le printemps dernier, le collectif de soutien aux enfants de sans-papiers, composé de simples citoyens du Loiret, est aux côtés des enfants menacés de ne plus pouvoir aller à l'école parce que leurs parents n'obtiennent pas le droit de rester en France. Tout l'été, la préfecture du département a fait la chasse à ces familles. Quelques exemples. Kankou, 13 ans. Sa mère veut la protéger en France d'une menace d'excision au Mali. Le préfet ne veut pas lui donner ce droit. Laura et ses deux enfants, 4 et 7 ans, de l'enclave anglaise de Cabinda, lieu de conflit civil. Le préfet veut les renvoyer alors qu'ils y sont recherchés. Kazim, 9 ans, orphelin tchétchène, accompagné de sa grande sœur. Ils ont été expulsés vers l'Allemagne qui les renvoie en Russie. Le Loiret est un exemple parmi d'autres départements français où l'on fait fi de la ratification des textes internationaux comme la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous ne voulons pas baisser les bras. Plusieurs collectifs, associations et syndicats, des médias nationaux, des représentants politiques et des personnalités nous soutiennent et dénoncent avec nous les dérives de la loi de Sarkozy. Nous ne voulons pas de cette France. Nous organisons une manifestation d'ampleur nationale symbolisant la rentrée scolaire de ces enfants menacés pendant les vacances. Certains manqueront à l'appel, ceux qui se cachent pour ne pas être pris, ceux qui ont déjà été expulsés. Pour les défendre et soutenir tous ceux qui subissent la politique d'exclusion du gouvernement, nous vous invitons à venir de toute la France. Soutenir les familles sans papier, c'est aussi défendre la conception d'une société égalitaire, fraternelle et démocratique. Samedi 10 septembre, participez à la manifestation qui partira à 15h de la cathédrale d'Orléans. Participez à l'appel de la rentrée des classes des enfants de sans papier à 15h45, place du Martroi.
Bonjour Daniel Mermet, ici Laurence, ménagère de moins de 50 ans, récemment repliée en Aveyron. J'utilise le répondeur de là-bas si j'y suis, Daniel, parce que je suis passée à Rodez hier. Et comme de toute évidence, nos médias nationaux s'abstiennent encore une fois de le faire, eh bien moi je me permets un petit témoignage. Donc hier, il y avait à Rodez une grande journée nationale de manifestation à l'occasion d'un énième procès de syndicalistes attaqués par les superpuissances de l'industrie agroalimentaire. Manifestement, ce qu'on reproche à ces gens, c'est d'avoir eu l'outrecuidance de défendre nos intérêts, en tout cas les miens, ça c'est certain, avec des méthodes qui plus est tout à fait légales et raisonnables. Alors, autant moi, il me semble tout à fait normal que, qu'on soutienne ces gens et que si on est des citoyens adultes et responsables, on soit solidaire, mais on peut quand même, cela dit, saluer le travail de soutien des associations et des syndicats qui ont organisé. Parce que les gens qui ne font que leur devoir de citoyen adulte et responsable, eh ben, pince-moi si je rêve, mais j'ai quand même l'impression que ça court de moins en moins les rues. Alors eux, ils étaient là, ils étaient nombreux, moins qu'au Larzac, certes, plus que les policiers quand même, malgré tout ce qui a été déployé 30 km à la ronde. Et voilà, ils étaient nombreux, évidemment, ils n'étaient pas les bienvenus, comme d'habitude. Évidemment, ces gens-là, ils sont absolument pas politiquement corrects. En tout cas, moi, citoyen lambda, je trouve que ces gens, ils sont droits, ils sont propres. Ils sont honnêtes, ce qui est plutôt rare dans notre chère civilisation. Ils sont authentiques, ils se battent pour moi aussi. Et je voulais juste donc leur faire un petit coucou et les remercier parce que, eh ben voilà, moi, ils m'ont redonné l'espoir. Au revoir.
Voilà, il y a eu un moment d'émotion hier, effectivement, au tribunal de Rodez, parce que le procureur avait réclamé des peines de prison. Finalement, ça s'est fini par des amendes. Alors, c'est pas rien. Mais il y aura des suites. Hein, c'est pas le, il y a toute une suite de procès. Il y a une judiciarisation ainsi de la vie syndicale et de l'action syndicale. On continue avec vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis 0156 40 37 37, sur le même sujet, celui-là.
Oui, les auditeurs de là-bas, si j'y suis, bonjour. J'appelle pour rectifier une petite erreur qui a été commise hier. En effet, Daniel parlait des militants de la Confédération paysanne en parlant du procès de Rodez, ou plutôt des procès de Rodez. Voilà, je voulais préciser qu'il n'y avait pas que des militants de la Confédération paysanne. Il y avait aussi Louis Langlois, qui est militant de la CNT-FTTE. Voilà, il me semble que c'est important de le préciser. En effet, le monde militant a tendance un peu à gommer un peu les minorités, là aussi, quoi.
Hier, nous avons eu droit à un discours du nouveau Sarkozy Light. D'un côté, il fait du pied aux salariés précaires en prétendant vouloir augmenter leur pouvoir d'achat et baisser le chômage à 5% en 10 ans. Mais en disant quoi ? La phrase d'après, c'est plus fort que lui. Il reprend sa cour envers les plus riches. affirmant que personne ne devrait payer plus de 50% de ses revenus en impôts. Sarko, tu me fais penser au papier collant double face. Quand un côté a touché l'autre, on n'a plus qu'à le jeter.
Meet the Yes Men, the next generation of activists.
Notre vraie cible, c'est le libéralisme, en fond. C'est les manifestations contre Seattle qui nous ont poussés à faire quelque chose.
To fight corporate greed, they will become anyone.
On s'attendait à ce qu'ils nous huent ou ils appellent la police ou quelque chose au moins. Mais rien du tout, ils n'avaient pas eu de réaction. On a totalement failli dans notre effort.
Salut, c'est Daniel Mermel, si j'y suis avec Andy Bichelbaum. Comment démasquer l'imposture néolibérale ou les Yes Men?
Flight number 2, arriving from...
The Yes Men, the next generation of activists. To fix the global economy, they will go anywhere.
Ils ont tellement l'habitude de ne pas réfléchir, parce que ça n'aide en rien de réfléchir quand on travaille dans ce milieu. De douter du système, ça n'aide en rien. Donc ils ont tellement l'habitude d'enfouir au fond de leurs doutes que là, ça devient automatique. Et quand l'OMC propose de privatiser le marché des votes, ils acceptent. On corrige leur identité. Normalement, ils brouillent ça, ils expliquent les choses d'une façon où on ne peut rien comprendre.
The Yes Men. Changing the world, one prank at a time.
Où ça paraît même quasi raisonnable. Là, on traduit ce qu'ils font et ce qu'ils sont vraiment en plus clair.
Alors toi...
Oui.
Alors toi, et l'autre, c'est Mike.
C'est Mike.
Et Mike, il n'est pas là?
Non.
Il est anglophone, il parle pas français.
Il parle pas très bien français, non.
Bon, et c'est toi qui te mets en avant, tu te t'en
en
profites
France,
pour te
oui.
mettre en avant. Et lui, on l'oublie.
Voilà, il n'existe plus.
Bon, comment ça a commencé cette histoire de Yes Men?
En quatre moments où 40 000 activistes se pointaient sur ces manifestations contre l'OMC de l'époque, voulaient participer à ces manifestations, mais on ne pouvait pas se rendre à Seattle, donc. On a fait le mieux avec ce qu'on pouvait faire et on a monté un faux site satirique sur l'OMC. C'était pas grande chose, mais puisqu'on ne pouvait pas y aller, quelque chose.
Qui étiez-vous à ce moment-là? L'époque hantée Yes Men.
Alors moi j'étais à Séville en ce moment, en New York. Mais on projet ensemble depuis 3 ans déjà. Donc là c'était encore un projet. On avait monté 3 ou 4 sites, juste comme ça.
Qui n'avaient quoi, pas vous êtes des militants, des comédiens,
oui.
des...
Militants. On a toujours essayé d'utiliser les moyens du théâtre et de l'art. Et
c'est des moyens que vous avez essayé d'utiliser, mais c'est pas votre boulot, c'est pas votre...
Non. Ben... En termes de boulot, moi j'ai un passé d'informaticien, je ne le fais plus. Là, j'étais écrivain de fiction et j'étais toujours très engagé. À un moment donné, en cas d'une histoire assez drôle où j'avais un boulot d'informaticien dans une boîte qui s'appelle Maxis en Californie, et j'ai inséré des personnages dans le jeu qui ne devaient pas y figurer. J'ai dit à personne parce que bon, ça m'amusait, je pensais devenir une grande histoire, mais quand...
C'était quoi les personnages? Qu'est-ce qu'ils faisaient?
Les personnages, c'était des garçons en slip qui s'embrassaient. Voilà, ça m'amusait. C'était
dans un jeu pour enfants?
Non, un jeu pour adolescents.
Ah
plutôt.
Bon?
Oui, peut-être, mais bon. Uh-huh. Ils s'embrassaient pas de façon très vulgaire non plus. C'était des petits bisous. Et donc ça allait. Et puis le jeu a été envoyé au magasin, 80 000 exemplaires. Et soudain, l'entreprise découvre la chose. Me vire et j'en parle, hein, je trouve ça génial et il écrit un article là-dessus et soudain c'est partout dans le monde. Alors à ce moment-là c'est intéressant de faire connaître trop de travail en s'amusant un peu comme dit le livre et donc j'ai démarré Artmark et tout de suite quelqu'un de parler à Mike et de voir si ça l'intéressait et depuis on travaille ensemble.
Et lui d'où il venait Mike?
Mike, il avait échangé les boîtes vocales de poupées parlantes de G.I. Joe et de Barbie. Il parlait, il a pris les boîtes vocales, il les a remis dans les magasins pour que les gens, les enfants cette fois-ci, les achètent sans le savoir.
C'est-à-dire que les gosses qui achetaient une petite poupée, ça faisait?
ça faisait allez, on va tuer, je sais pas ce que ça disait en fait, mais des choses comme ça, et vice versa, le Barbie, le G.I. Joe, il voulait aller faire des courses.
The BLO, the mission of the BLO, the Barbie Liberation Organization, the BLO.
Moi, ça m'a fait bien rire. Il a l'air d'un jouet qui dirait « Viens te battre !» Et en fait, il dit
« Et donc là, vous commencez à comprendre, là, vous prenez ou reprenez le goût du canular, quoi, de l'imposture. Mais avec au moment de Seattle, vous essayez de passer à la phase supérieure militante.
Non, on avait déjà fait plusieurs actions militantes. Mais là, à Seattle, à notre grande surprise, on a découvert le satire de ce genre. Le fait que le satire peut être pris pour la vérité par beaucoup de gens. Parce qu'on a commencé à recevoir en vrac des messages avec destination destinés à l'OMC.
OMC, WTO, et vous montez un site parallèle. Un faux site?
Oui, sur GATT.org, parce que GATT, c'était les anciennes initiales de l'OMC. Donc, on l'a mis là et on a pensé que les gens allaient peut-être tomber dessus par accident, mais après deux minutes, ou même deux secondes, ils allaient comprendre très bien ce qu'on essayait de dire.
Et alors?
Et les gens ne le voyaient pas. Malgré nos pires efforts de satire, les gens ne le voyaient pas
du tout. Qu'est-ce qu'il y avait comme genre de satire?
C'était à l'époque où l'OMC interdisait la fabrication de génériques, de pharmaceutiques génériques au Brésil. Donc on disait que c'était une façon d'apprendre au marché de se développer. C'était une forme de tough love, comme on dit en anglais, d'amour dur. Et que malgré le fait que 100 000 Brésiliens allaient mourir peut-être de sida à cause de ça, c'était quand même très bien. Ça allait améliorer le marché, donc c'était très bien. Des choses comme ça, mais encore pire que ça, mais personne n'a vu, ou pas tout le monde n'a vu. Et après 2-3 mois, on a...
Combien il y a eu de visites? Des gens qui se sont fait gruger ou qui ont accepté votre truc, qui ont approuvé?
Ben, au début, on n'a pas eu beaucoup de visites du tout, mais après, l'OMC a créé un communiqué de presse sur notre site, et encore... Toujours personne l'a vu, leur communiqué de presse, parce que personne ne lit vraiment le site de l'OMC. Mais eux, l'OMC, ils nous ont envoyé leur communiqué de presse en disant « Voilà, vous êtes méchants, vous nous avez poussé à écrire un communiqué de presse. » On a trouvé ça tellement excellent qu'on l'a envoyé à 20 000 journalistes. Mmh. Et là, on en a parlé, on a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs. Et en même temps, ça a fait monter le site dans les machines de recherche, dans Google. Donc après ça, quand les gens tapaient OMC dans Google, ils tombaient sur notre site très souvent, grâce à l'OMC et l'attention de l'OMC. Et donc à partir de ce moment, on a commencé à recevoir encore plus de courriers, y compris des invitations à des conférences.
Toute votre histoire, c'est de... Bon, il y a le côté canular et potache d'étudiants, mais alors ça, bon, c'est rigolo, c'est amusant, mais ça pourrait se limiter à ça. Derrière ça, et en même temps que ça, il y a une intention politique et militante bien précise.
Oui, chaque fois, dans chaque conférence, on a préparé un discours qui soulignait un aspect du libéralisme qu'on trouvait absurde et horrible.
Raconte comment vous vous mettez à faire des conférences.
Ah oui, alors... On a commencé, après que GATT.org a existé pendant deux mois, on a reçu une invitation pour la première conférence.
Et vous faites un cybercanular, ce que vous avez appelé un cybercanular.
Oui.
Ok. Et malgré l'énormité du canular, vous recevez des invitations à participer à des conférences.
Voilà.
En tant que conférencier de l'OMC.
Voilà. Des gens qui cherchent quelqu'un de l'OMC pour venir parler de la politique de l'OMC dans leur conférence, d'avocats ou d'experts de textile une fois, etc. Et même à la télé une fois. Et ils tombent sur notre site, ils se disent, tiens, c'est notre... voilà le site, on va cliquer sur contact et envoyer un mail et inviter ces gens-là à venir nous parler. Ils pensent que c'est vraiment l'OMC et on accepte. La première fois qu'on a reçu une invitation comme ça, ça nous a pris deux mois à accepter. On se disait pas, ah oui, on peut le faire. Donc à la première conférence, on a préparé une outrance vraiment.
Alors comment vous vous préparez? Raconte-moi comment vous vous préparez.
Alors la première fois, on a voulu vraiment pousser ça jusqu'au bout et obtenir une réaction des avocats. On voulait les pousser à la réflexion. C'était ça notre but. Bon, ils voulaient un représentant de l'OMC pour parler de la politique de l'OMC. On allait le fournir et il allait parler vraiment de la politique de l'OMC, mais d'une façon qui allait les pousser à réfléchir. On allait exprimer la vraie politique de l'OMC, mais d'une façon inacceptable et plus forte que d'habitude, plus honnêtement que d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Et en écoutant ça, ils allaient être ahuris et très offensés, et ils allaient peut-être même appeler la police, on ne savait pas. Mais après, ils allaient comprendre quand même de quoi on parlait. On
parle. Alors d'abord, vous vous préparez, vous habillez correctement comme doit être habillé un conférencier de l'OMC.
Oui, on va dans un magasin d'occasion, acheter une cravate, acheter un costard, et puis on apprend un peu le langage en regardant le site de l'OMC, par exemple, et on réfléchit.
Non, mais je te demande ces précisions parce que il y a des tas d'auditeurs qui sont en train de se dire mais c'est génial, il faut qu'on fasse pareil.
Ah oui, alors il faut aller chez Emmaüs et vraiment choisir un bon costume. Ah oui, c'est très important.
Vous faites filmer.
Ouais.
Parce que vous voulez avoir des images. C'est comme ça que vous avez fait votre film. Mm. Et comment vous faites pour vous faire filmer?
Bon.
Avec des costumes un peu loupés.
Ouais, un peu loupés.
Et une caméra.
Ben, au début, on a pensé qu'il fallait quand même faire une excuse pour la caméra. Dire, voilà, c'est une caméra de sécurité. Au cas où ce représentant sera entarté pendant sa présentation, on veut quand même capter l'image pour après poursuivre l'entarteur. Mais en fait, personne ne se demande pourquoi il y a une caméra qui suit l'OMC. Donc, c'était pas nécessaire d'expliquer.
Et donc, là, vous faites votre première conférence devant un aéropage, devant une salle.
Oui, voilà.
Qui sont les gars qui sont dans la salle?
C'est des avocats de droit international qui viennent d'un peu partout dans le monde, surtout des Américains. C'est en Autriche, mais c'est surtout des avocats américains qui viennent là pour parler de choses et autres, de droit international, d'apprendre quelque chose, de développer leur façon de penser. Donc on était là pour les aider. Et on a fait un discours sur la politique de l'OMC, en quoi l'OMC recommandait l'abolition de la culture inefficace, donc la sieste, les repas trop allongés de midi, il fallait vraiment interdire tout ça. Et en plus, il fallait privatiser la démocratie en permettant aux entreprises d'acheter les voix directement des citoyens, plutôt que de passer par le système de campaign finance, comme on dit en anglais, financement de campagne électorale où les entreprises contribuent énormément. Et c'est injuste. Là, ce devrait être direct. Ça épargnerait pas mal d'argent. On l'envoie directement à l'électeur, $10 peut-être, je ne sais pas, le prix du vote. Et ça sert à rendre plus efficace et plus libéral, quoi, le système.
Une solution est testée en politique américaine pour souligner l'aspect inefficace et grotesque du système électoral. VoteAuction.com n'emploie que 4 personnes pour transmettre des informations, mais aussi de l'argent, directement à l'électeur. C'est un forum où les gérants vendent leur voix au plus offrant.
Et ainsi de suite. Et ça dure combien de temps, la conférence?
Je parle comme ça pendant 20 minutes.
Et dans la salle?
Dans la salle, après, applaudissements. Et question ordinaire, comment vous faites, la première question c'était comment vous faites vous l'OMC pour convaincre à ces manifestants qui sont évidemment bêtes que vous êtes bien, voilà, qu'est-ce que vous faites pour les convaincre, pour les montrer. Donc les gens n'ont vraiment pas compris, on a déjeuné avec après, on a même communiqué par mail après pour s'assurer qu'ils n'ont vraiment rien compris de ce qu'on avait fait. On s'attendait à ce qui nous eut, ou ils appellent la police ou quelque chose au moins, mais rien du tout. Ils n'avaient pas eu de réaction. On a totalement failli dans notre effort. Donc la prochaine.
C'est extraordinaire, ça. C'est quand même une situation extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que ils sont d'accord avec vous, ou bien est-ce que ça veut dire qu'ils s'en foutent de toute façon, ils sont prêts à suivre n'importe quoi pour garder leur job?
Je crois que c'est entre les deux. Ils ont tellement l'habitude de ne pas réfléchir, parce que ça n'aide en rien de réfléchir quand on travaille dans ce milieu. De douter du système, ça n'aide en rien. Donc ils ont tellement l'habitude d'enfouir au fond de leurs doutes que là, ça devient automatique. Et quand l'OMC propose de privatiser le marché des votes, ils acceptent. Voilà, ok, c'est l'OMC qui le dit, ça doit être logique. Je comprends pas très bien pourquoi ni comment, mais ok.
Il y en a pas un dans le tas qui a un doute, qui vous regarde un peu de travers?
S'il y avait un qui nous regardait de travers, un seul, mais il n'a rien dit de très fort, donc on ne sait pas jusqu'à quel point son doute allait.
Alors ça, c'est votre premier exploit public?
Oui, ça c'était le premier. Et puisqu'on a tellement mal fait, puisque ça n'a tellement pas marché, on a décidé pour la prochaine intervention auquel on a été invité de préparer quelque chose de plus extrême et de plus grotesque. En attendant, on a reçu une invitation d'une autre conférence de textile en Finlande. Aussi voulait un représentant de l'OMC, et donc on a accepté. On a préparé un discours encore plus extrême. On faisait l'apologie de l'esclavage pour démontrer comment marche l'esclavage moderne. On a préparé un gros costume avec un gros phallus
phallus en or.
En or, voilà, géant. En or, pour démontrer vraiment...
Et pourquoi ce phallus en or? Parce que les photos sont absolument... Enfin, les costumes sont absolument extraordinaires. Mais pourquoi ce costume en or, enfin en textile doré, avec cet énorme phallus qui se déplie d'un seul coup? Pourquoi cette idée?
C'est pour surveiller ces employés à distance, ces esclaves à distance, quoi, dans le tiers-monde, dans les sweatshops. Parce que dans le discours, j'explique que les sweatshops, c'est vraiment l'esclavage dans sa forme plus moderne. Voilà, c'est mieux que l'esclavage parce que ça coûte moins cher. C'est de garder l'esclave chez lui. Donc, mais le seul problème, c'est que bien sûr le manager, il ne va pas aller en Malaisie surveiller ses employés. Qu'est-ce qu'il veut foutre là-bas? Donc, il faut qu'il les surveille de loin et le phallus lui permet de faire ça.
Écran au bout du phallus.
Oui, il y a un écran au bout du phallus. Il y a aussi des boutons auxquels il peut appuyer pour donner des petits chocs électriques à ses employés qui travaillent pas assez dur. Des choses comme ça.
Comment les travailleurs sont-ils devenus un problème? Avant de dévoiler notre solution, je voudrais parler du problème travailleur-patronat. On a tous entendu parler de la guerre de sécession. C'est la plus sanglante et la moins rentable de l'histoire américaine. Une guerre dans laquelle on a perdu beaucoup d'argent à cause des textiles. En 1860, le Sud croule sous l'argent. Des centaines de milliers d'ouvriers sans travail trouvent un emploi dans le textile. Dans ce tableau de liberté et de prospérité, le Nord s'impose. Les apologistes de cette guerre disent que, malgré ses défauts, elle a rendu illégale une main-d'œuvre importée de force. Ce modèle est bien sûr terrible. Je suis moi-même abolitionniste. Mais il ne fait aucun doute que si on avait laissé faire, l'esclave aurait été remplacé par des sources de travail plus propres. Pour prouver ce que je dis, revenons sur ce que Einstein appelait l'expérience de pensée. Imaginez que cette main-d'œuvre importée ne soit pas illégale, qu'on puisse facilement avoir un esclave. Selon vous, combien coûterait l'entretien d'un esclave ici, à Tampere, en Finlande? Une tenue vestimentaire complète coûte au moins $50. Deux repas chez McDonald's coûtent $10. La chambre la moins chère coûte $250 par mois. Sans oublier la santé de l'esclave. Si son pays d'origine est pollué, ça peut revenir cher. Avec les lois sur le travail de l'enfant, la main-d'œuvre jeune n'est pas disponible. Laissons cet esclave chez lui, par exemple au Gabon. Au Gabon, avec $10, on mange 2 semaines. $250 suffisent à payer 2 ans de logement. $50 suffisent à s'habiller pour une vie. Les frais de santé sont réduits. Et on peut faire travailler sans restriction. Le plus grand bénéfice du travail délocalisé va à l'esclave.
Au Gabon, il n'est pas forcé qu'un esclave ne soit pas libre. Tout d'abord, il n'y a pas de coût de transport. Les pertes potentielles liées à l'évasion se limitent à la formation. Puisque l'esclave peut être libre, il ou elle devient un travailleur et non pas un esclave. C'est aussi excellent pour le moral, les esclaves. Les esclaves restent dans leur habitat naturel, au lieu de partir vers des lieux où ils souffrent du mal des pays ou du racisme. Au vu de notre expérience, il est clair, par cette guerre, non seulement le Nord a commis une injustice contre la liberté du Sud, mais il a aussi privé d'esclavage de son évolution naturelle vers le travail délocalisé. Si les dirigeants américains de 1860 avaient compris cela, la guerre de sécession n'aurait pas eu lieu. Alors que le siège d'une société peut être à New York, Hong Kong ou en Finlande, et la main-d'œuvre au Gabon, à Rangoon ou en Estonie, quels sont les rapports entre patron et employé? Comment l'employeur s'assure que les ouvriers suivent une éthique de travail? Je vais vous montrer un prototype de la solution de l'OMC face aux deux problèmes du patronat. On sait tous qu'un lieu de travail bien conçu ne suffit pas à surveiller des employés. Ce qu'il faut, c'est une solution qui permet des rapports complets avec les employés, surtout s'ils se trouvent loin. Mike, pouvez-vous m'aider ?
Là, le public rigole, pendant les deux, il y a deux cinglés.
Il rigole, et il trouve ça drôle. Le phallus géant, c'est quand même, ça se remarque. Mais ils ne se disent pas, voilà deux cinglés. Non, ils se disent, voilà l'OMC qui fait un truc étrange.
Artistique.
Oui. On ne comprend pas pourquoi, mais il doit y avoir une bonne raison, et voilà. Et ils ne bronchent pas... sur les aspects du discours où on parle de l'esclavage, du sweatshop et tout ça. Et on les interroge même après. Je parle à au moins 5 personnes après, pendant le déjeuner, après pendant le dîner. Le maître de la conférence nous remercie 3 fois en public devant tout le monde pour notre démonstration excellente.
This is the EVA.
Il s'agit de l'IVE,
the employee visualization appendage.
Appendice de visualisation de l'employé. Ce système se déploie instantanément et permet de garder les mains libres.
Et ils vous disent quand même, ils apprécient l'humour, la provocation, le...
Non.
Personne, il n'y a pas une dame qui dit, mais c'est une provocation macho, une agression sexuelle symbolique.
Si. Il y a une dame qui dit, vraiment ce qu'elle a dit littéralement, mot pour mot, c'est que la forme de la chose implique que seulement les hommes peuvent être des chefs d'entreprise.
Ah.
Et c'était ça vraiment ce qui n'allait pas pour elle. C'était pas le fait que c'est un engin pour contrôler des gens à distance, appliquer des chocs électriques, surveiller ses employés. Que le problème, c'était pas qu'on les appelle des esclaves, c'était plutôt que c'était macho.
Ça paraît invraisemblable. Ouais, ouais. Tout ça, c'est ce que vous appelez la rectification d'identité. Ça fait très savant, on dirait du Foucault, la rectification d'identité. Pourquoi?
C'est parce que on traduit la vraie politique de l'OMC en plus clair et on corrige leur identité. Normalement, ils brouillent ça, ils expliquent les choses d'une façon où on peut rien comprendre, où ça paraît même quasi raisonnable. Là, on traduit ce qu'ils font et ce qu'ils sont vraiment en plus clair. Ensuite, on a été invité par une conférence sur l'agroalimentaire. On a préparé un grand discours. Là, on a pensé, on n'a pas réussi à faire réfléchir les gens avec des mots, ni avec le gros phallus géant. Donc là, on va vraiment les forcer à réfléchir en leur faisant manger quelque chose d'inacceptable. Et on va expliquer que, c'était des hamburgers moitié recyclés. Donc recycler, ça veut dire bien sûr que c'était en partie...
Avec des déchets.
Avec des déchets, oui, mais seulement la moitié. et on allait distribuer des hamburgers au public avant. Et ils allaient.
Alors vous leur dites, voilà, c'est des hamburgers. La moitié voilà. De ces hamburgers, c'est de la merde.
On dit pas avant. On les permet de les manger. Et puis après, on dit, voilà, la moitié de ces hamburgers, c'est de la merde. Et c'est notre solution à la faim au tiers monde. Parce qu'au tiers monde, il y a un grand problème de faim. C'est un problème parce que ces gens ne peuvent pas travailler très dur. Donc c'est un problème pour le libéralisme. Le problème, c'est pas qu'ils crèvent, mais plutôt qu'ils travaillent pas très bien. Et donc, il faut leur donner assez à manger. Et la seule façon de faire ça dans les lois du marché, c'est en recyclant la merde. Donc, c'est ça l'idée. Et on le teste devant des étudiants. Et ça, c'est à New York. Un ami qui enseigne dans l'État de New York, dans l'université de New York, nous invite à faire cette conférence devant 400 étudiants. Il les rassemble et voilà, c'est l'OMC qui vient vous parler. Et voilà, j'arrive, on distribue des hamburgers, les étudiants le mangent. On décrit le système pour résoudre le problème de la faim au tiers monde, c'est-à-dire recycler les hamburgers. Et on leur dit, voilà, vous avez mangé des hamburgers recyclés. Mais là, les étudiants ont réagi tellement fort dès que j'ai commencé à parler, dès la première minute presque de mon discours, que on s'est rendu compte, tiens, eux, ils réagissent. Mmh. Et là, dans les premières minutes du discours, il n'y avait rien de plus fort que dans les discours antécédents. Donc, on s'est dit là, quand même, il y a un problème. C'est pas le discours qui manque quelque chose. C'est pas nous qui n'avons pas fait notre travail. C'est le public qui est incapable de comprendre ce qu'on dit. Mmh. Parce que là, les étudiants, ils comprennent parfaitement. Ils voient tout de suite.
Je n'arrive pas à croire que vous dirigiez ces sociétés. Je suis profondément choqué. Je nourris mon chat ou mon chien mieux que ça. Il s'agit là d'êtres humains, n'est-ce pas? On leur donne de la merde, littéralement. À vrai dire, on traite déjà les gens du tiers-monde bien plus mal que nos animaux domestiques. Ce n'est pas bien, mais c'est un fait.
Et vous avez refait cette conférence-là, non?
Non. Alors, on allait le refaire. C'était une sorte de répétition pour l'Australie. Mais on allait le refaire en Australie, mais on a décidé non. Là, ça ne va vraiment pas. On va jamais réussir à avoir une réaction d'un public d'experts, puisque, bon, ces étudiants ont réagi tout de suite. C'est évidemment, le problème, c'est le public. Donc, pour les experts, on va essayer autre chose. On va essayer de, puisqu'ils nous respectent tellement, qu'ils sont prêts à tout accepter de notre part, on va leur dire ce qu'on veut qu'ils entendent, et c'est que, voilà, il y a des énormes problèmes liés à l'OMC dans le monde, dans le tiers monde. On crée l'inégalité, on crée la pauvreté dans beaucoup de cas. Ça augmente grâce à notre politique, donc on va faire la chose logique, on va se dissoudre. Et voilà, on annonce la dissolution permanente de l'OMC à un petit parterre d'avocats en Australie.
Thank you all for coming.
Merci à tous d'être venus. Je remercie les organisateurs, ils se sont donné du mal pour organiser cette réunion et ce repas. Malgré les difficultés, la conférence ayant été annulée. Je commencerai par m'excuser pour le changement de programme lié à un événement spectaculaire qui s'est produit à Genève hier. Au départ, je comptais vous faire un rapport sur l'impact des technologies agricoles. Mais je me trouve porteur d'une nouvelle dérangeante. L'OMC publiera une déclaration d'ici la fin de la semaine, mais le sort en est jeté. À partir de septembre 2002, au vu des effets d'une politique ayant pour but prospérité et paix, l'OMC sous sa forme actuelle cessera d'exister. Pendant les deux ans qui viennent, l'OMC essaiera de se reconstruire sur de nouvelles bases, avec une nouvelle perspective sur le commerce mondial. La nouvelle organisation reposera sur la Déclaration universelle des droits de l'homme,
we can make a good foundation to ensuring that
cela peut nous donner une base solide pour assurer à l'organisation un angle plus humain que financier.
Ils sont absolument ravis. Ils sont vraiment très très heureux d'apprendre ça et ils nous suggèrent même des choses à faire, comment assurer que ça va marcher dans le futur. Ils ont des suggestions excellentes sur comment on peut faire pour que ça marche vraiment. Par exemple, déplacer le QG au tiers-monde quelque part pour que les pays pauvres puissent avoir une présence à l'OMC. Ce serait excellent quand même. Là, il y a 30 à 50 pays pauvres qui peuvent pas se payer un bureau à Genève, c'est trop cher. Donc autant déplacer le QG au Bangladesh, je ne sais pas. Donc plein d'idées, plein d'élan. C'est une réaction vraiment différente des autres. Les gens, ils étaient vraiment très très contents. Donc ça donne un peu d'espoir quand même. C'est pour ça que je pense que ces gens refoulent leurs doutes plutôt qu'autre chose. Là, on a permis à ces comptables à exprimer leurs doutes sur la libéralisation. Ils savaient déjà ce qu'on leur a dit, que la politique de l'OMC c'est mauvais pour le tiers-monde. Ils savaient tout ça. Ils n'avaient eu aucun encouragement auparavant pour vraiment réfléchir là-dessus.
Oui, c'est un genre d'humour qui s'inspire de Swift, hein. Oui. Les modestes propositions contre la famine en Irlande. Il y a un texte très très fameux de Swift, hein, oui. Qui est votre grand-père, votre ancêtre préféré, qui avait fait un texte pour dire bon, il y a une famine en Irlande. La solution, elle est de manger les enfants. Voilà. Bon, et puis de donner comment on va pouvoir les manger. Quelles peuvent être les recettes pour manger les enfants. C'est ça. Hein,
voilà. Oui, c'est ça exactement. Et
des très bonnes recettes.
Oui, des très bonnes recettes. Et je suis sûr que ça pourrait marcher. Mmh. Et Swift, il ne voulait pas tromper les gens au début. En faisant ça, il voulait communiquer ce qui n'allait pas avec la politique anglaise. Mais je crois qu'il y a dû y avoir pas mal de monde qui a vraiment cru qu'il était sérieux.
Et vous continuez aujourd'hui ?
Oui, on continue avec d'autres cibles.
Évidemment, vous n'allez pas dire lesquelles.
Ben, récemment, on a commencé à cibler Dow Chemical pour l'affaire de Bhopal en 84.
Ah, mais oui.
Et donc, c'était le 3 décembre dernier, la BBC nous a invités à parler en tant que Dow Chemical. Ils sont allés sur notre faux site dowethics.com et ils nous ont invités à parler de Bhopal. Et Dow, normalement, il refuse. Il dit absolument rien sur Bhopal.
En Inde, aujourd'hui, des rescapés de la tragédie de Bhopal étaient réunis pour le 20e anniversaire. La catastrophe avait touché 800 000 personnes.
Et ces rescapés ont cru un instant qu'ils allaient être définitivement indemnisés. Un porte-parole de Dow Chemical, le repreneur d'Union Carbide, l'a annoncé ce matin sur la très sérieuse BBC. Seulement voilà, la télévision nationale britannique a été victime d'un canular, Jean-Marc Four.
Oui, tout commence ce matin par un scoop, enfin par ce qui ressemble à un scoop. La chaîne d'information continue de la BBC News 24 diffuse en exclusivité une interview de Jude Finisterra. L'homme est présenté comme le porte-parole de la société américaine Dow Chemical, propriétaire de Union Carbide, et il déclare « Nous sommes très très heureux de l'annoncer, Dow Chemical accepte pour la première fois son entière responsabilité dans la tragédie de Bhopal ». Et il poursuit, nous allons donc débloquer 12 milliards de dollars pour enfin indemniser intégralement toutes les victimes. L'identité de l'auteur ou des auteurs de cette mystification reste mystérieuse. Quant au scoop, il s'est donc avéré être une erreur journalistique car l'identité de l'imposteur aurait dû être sérieusement vérifiée et l'image de la BBC en ressort quelque peu écornée.
The Yes Men, the next generation of activists.
Comment vous élaborez vos coups? Parce que c'est tout ça, ça suppose quand même une argumentation. Alors bon, toute la stratégie d'imposture, tout le côté canular, on peut imaginer, les caméras cachées, etc. Mais, ou pas d'ailleurs, les costumes, les déguisements, tout ça c'est drôle comme tout. Mais sur le fond, comment vous choisissez les sujets? Comment vous élaborez toute cette...
Notre ultime, notre vraie cible, c'est le libéralisme, en fond. Mm-hmm. Donc, il y a tellement de manifestations de ce problème, du libre marché, du libéralisme sauvage dans le monde. Il y a l'OMC, il y a les entreprises et leurs méfaits, comme Bhopal. Il y a toutes sortes de façons que ça s'exprime. Donc, nous, avec l'OMC, c'est les manifestations contre Seattle qui nous ont poussé à faire quelque chose. Mmh. Ça a démarré toute l'histoire. Avec Bhopal et Do, c'était des amis à nous qui sont venus vers nous après qu'on avait fait le truc sur l'OMC. Ils nous ont dit pourquoi pas Do. On s'est dit, ah oui, pourquoi pas. Et on l'a fait parce que ça exprime très bien le problème de fond.
Mais alors, quel avenir vous avez? Vous pouvez continuer comme ça ou bien on va se mettre à douter à chaque fois? Les gens de l'OMC doivent être traumatisés par votre truc. Ils doivent s'accuser entre eux de tu t'es en train d'imiter.
Ben, ce serait idéal. Si les gens commençaient vraiment à se douter énormément, chaque fois que les avocats se retrouvent en conférence, s'ils commencent à douter les discours des autres, ce serait excellent. Parce qu'en fait, c'est tout aussi grotesque que ce qu'on dit. Comme vous avez vu à Bruxelles, c'est tout à fait ça. C'est aussi absurde que nos versions.
Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que finalement, depuis qu'on a repéré ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, disons, vous semblez être parmi les premiers à avoir cette idée du grotesque, enfin de faire sortir des choses par la provocation bouffonne.
Oui, il y a d'autres aussi qui ont fait
Michael Moore.
Il y a la télé anglaise, il y a quelques-uns comme Mark Thomas et Chris Morris et même Ali G, certains de ces trucs parlent de ça, je crois, en France aussi. Je ne regarde pas assez la télé, donc je ne sais pas, mais Pierre Carr, il en parlait à l'époque, mais je ne sais pas, oui. C'est une chose tellement grotesque, le grotesque est approprié, je crois, comme comme forme.
Voilà, merci à tous, merci Andy Bichelbaum, le Yes Man des Yes Men. Et je rappelle le titre de leur bouquin, Comment démasquer en s'amusant un peu l'imposture néolibérale, leur film de Yes Men. Et puis, ce film va sortir en DVD en octobre prochain. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet, assisté de Raphaël Moutard. C'est Pascal Le Pascariello qui fait tout le boulot dans cette émission. Et c'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur. Dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve demain à... Bon, allez hop, à 17h. Mais d'abord, un petit coup de réclame.